Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici en ce pèlerinage au pied de la statue et de l'autel de Notre-Dame des Neiges. Le fondateur de nos chères religieuses de la paroisse de Lourdes, qui vous accompagnent et qui sont depuis quelques années à l'initiative de ce pèlerinage, se souviennent, comme toute leur congrégation, que leur supérieur et fondateur, le père Lucien-Marie Dorne, invoqua dans le danger de ces monts la puissante intercession de Notre-Dame des Neiges, et il sentit alors la présence maternelle de Notre-Dame pour l'assister. À sa suite, ses filles religieuses, comme chacun d'entre nous, pèlerins de Notre-Dame des Neiges, nous venons demander à Notre-Dame de prier, d'intercéder pour nous, de nous protéger dans le danger des montagnes, de nous protéger dans les dangers de la vie. Notre-Dame des Neiges, c'est également ainsi qu'elle se manifesta à Rome en août, dont nous faisons l'anniversaire ces jours-ci, alors qu'elle demanda au Saint-Père d'alors qu'on lui bâtisse, non pas une chapelle, mais la première église du monde chrétien qui lui soit dédiée, qui lui soit dédicacée. C'est la basilique Sainte-Marie Majeure, Notre-Dame des Neiges. Il a neigé en plein mois d'août dans la ville si chaude de Rome. Rien n'est impossible à Dieu, avons-nous entendu dans l'Évangile. C'est cet impossible que nous venons demander à Notre-Dame qui sait si bien défaire les nœuds de nos existences. Nous venons demander à Notre-Dame parce que rien n'est impossible à Dieu. Parce que rien n'est impossible à Notre-Dame, il plaît à son Fils de passer par elle, qu'elle nous aide à avancer à la rencontre de son Fils, qu'elle nous aide à affronter les tempêtes, qu'elles soient de neige, de vent, contraires à l'Évangile que nous avons à affronter au quotidien. Dans l'Évangile, nous rencontrons Notre-Dame dans sa jeunesse. Notre-Dame qui a la visite de l'archange Gabriel. L'évangéliste saint Luc a mis tout un suspense pour nous révéler le prénom de cette jeune fille à qui lui, l'envoyé du Très-Haut, est destiné. On nous dit qu'elle est fiancée à un homme, que celui-ci s'appelle Joseph, qu'il s'agit de Nazareth, qu'il s'agit de la Galilée et qu'à la fin, le nom de la jeune fille était Marie. Le saint nom de Marie que nous invoquons dans le danger, le saint nom de Marie, celui qui est notre mère. Pourtant, l'archange envoyé par le Très-Haut ne va pas s'adresser en l'appelant tout d'abord Marie. Il ne lui dit pas comme nous dans nos prières « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Il la salue comme la comblée de la grâce de Dieu. C'est le nom divin par lequel l'archange vient saluer Notre-Dame. Et celle-ci, dans sa foi, sent bien que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Il n'est pas dans l'ordre établi des choses qu'un archange manifeste à un homme ou une femme autant de déférence et de révérence à son endroit. Le monde se serait-il inversé pour que les anges estiment Notre-Dame, une créature humaine, supérieure à eux ? Je vous salue, comblée de la grâce. Le Seigneur est avec vous, lui dit-il, avec le sous-entendu de la foi, il est avec vous comme il n'est avec aucune autre créature du genre humain. C'est la nouvelle Ève et à travers elle la nouvelle création dont il s'agit de saluer l'aurore. La bienheureuse Vierge Marie, comblée de la grâce de Dieu, a le Seigneur avec elle. préservé dès le premier instant de sa conception dans le ventre très pur de Sainte Anne, sa mère, voilà qu'elle est préservée de toute trace, de toute tache du péché originel. Pour nous qui vivons en régime de péché et de pécheurs, nous concevons toujours sa conception immaculée comme un remède par rapport à nous. Nous voyons le versant négatif. Elle, elle est conçue sans péché, nous, nous sommes pécheurs. Mais le versant positif de la conception immaculée de Notre-Dame, c'est qu'elle est complètement transparente à la vie de Dieu, complètement transparente à la vie de la grâce qui coule en elle et dont elle est comblée. Il n'y a dans le cœur de Notre-Dame aucun rétrécissement d'orgueil, aucun rétrécissement du cœur et de l'âme qui viendrait l'altérer par le péché. C'est le cœur grand ouvert face à son Créateur. C'est la foi intacte et pure de la Sainte Vierge qui fait qu'elle va devenir la Mère de Dieu. Certes, elle va venir au secours des pécheurs que nous sommes, mais le versant positif de cette conception immaculée qui fait qu'on la salue comme comblée de grâce, c'est qu'elle est le miroir parfait et éclatant de la grâce de Dieu. Elle est comme Adam et Ève au commencement, absolument pas atteinte du péché. Elle ne vit que du bien, elle ne vit que de la grâce de Dieu dont elle est comblée et resplendissante. On dira à Bernadette que c'était un peu embêtant qu'elle ait appelé cette dame « mademoiselle » parce que Bernadette estimait qu'elle était plus jeune qu'elle. Et Bernanos, le grand romancier chrétien, le grand écrivain, pourra dire que Notre-Dame est jeune parce qu'elle vient d'avant le péché. Voilà la jeunesse intérieure de Notre-Dame. Ce Dieu qui refait les forces de notre âme est éternelle, elle ne vieillit pas, notre âme, elle est en présence de Dieu. Voilà comment est Notre-Dame au jour de son Annonciation. Voilà combien le bon Dieu aimerait que nous soyons devant lui, transparents à son règne, que nous puissions accomplir en nous sa volonté avec la même facilité, la même docilité de Notre-Dame. Et comme cela ne nous est pas permis par le péché, voilà que là où le péché a abondé, la grâce va surabonder, surabonder en Notre-Dame, mais surabonder en nous, qui devons vivre nous aussi, de la grâce de Dieu. Je vous salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. La Sainte Vierge ne comprit pas immédiatement la salutation. Pourquoi ne l'appelle-t-il pas Marie ? Pourquoi cet ange supérieur à elle se met à s'incliner, se prosterner devant elle ? Serait-elle supérieure aux anges ? Oui, Notre-Dame est supérieure aux anges. Et voilà qu'il va lui révéler, lui dévoiler cette mission que le bon Dieu lui prépare, pour lequel il demande son consentement. Dieu n'agit pas envers Notre-Dame comme avec une mère porteuse. « Porte-moi l'enfant et le reste, je m'en occupe. » Il vient demander à Notre-Dame, non pas seulement d'enfanter, de concevoir et d'enfanter notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair. Notre Seigneur Jésus le Christ est à la fois véritablement Dieu, et cela de toute éternité. Il est l'engendré du Père, il est le Verbe, la parole du commencement, celui qui a ordonné l'ensemble de l'univers et de ses lois. Le Seigneur dit, et cela s'est passé comme il a dit, et Dieu vit, Dieu le Saint-Esprit, que cela était bon. Nous venons de cette bonté de Dieu. La création est marquée par la bonté de Dieu, même si le péché de nos premiers parents vient aussi altérer notre vie, mais tout autant la création. Voilà que le Verbe de Dieu, qui est le Créateur, va devenir homme tout en demeurant Dieu. Et il va devenir homme par la bienheureuse Vierge Marie. Il est le Fils de Marie. Il ressemble à la Sainte Vierge. concevoir et enfanter notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair, telle est bien la mission de Notre-Dame, pour laquelle, comme Bernadette à la grotte, ne répondra ni oui ni non. Elle s'engage. Je suis la servante du Seigneur. Parce que je suis complètement transparente à la grâce de Dieu, eh bien voilà que j'accepte ce dessein qui me dépasse complètement. Comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. La Vierge se présente sans tout comprendre des mystères de Dieu, par l'obéissance de la foi, réponse de son amour sincère au Dieu trois fois saint qu'il aime de toute éternité. Je suis l'humble servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Voilà l'acte de foi de Notre-Dame, par laquelle notre Seigneur Jésus le Christ, eh bien, vient prendre chair de sa mère. Voilà qu'au jour de l'Annonciation, notre Sauveur est entré dans le monde par les entrailles de la Sainte Vierge Marie. Voilà que notre Seigneur Jésus le Christ, qui est Dieu de toute éternité, reçoit ce corps de la bienheureuse Vierge Marie et que Dieu, parce qu'il est homme, lui insuffle une âme comme la nôtre, une âme éternelle. Et le Verbe en elle s'est fait chair jusqu'à naître dans la grotte bénie de Bethléem. Bethléem signifie la ville des pains et nous l'entendons dans l'Évangile alors qu'on le contemple reposant dans la mangeoire. Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Dieu, le Très-Haut, s'est fait tout petit dans les entrailles de la Sainte Vierge. Dieu, le Très-Haut, se fait tout petit dans l'hostie sainte, consacrée par sa présence que nous allons adorer et que nous allons recevoir. Lorsque nous communions, le Seigneur est avec nous, comme il n'est avec aucune autre créature, et le bon Dieu, il lui plaît de descendre dans nos crèches intérieures pour y établir sa demeure. C'est là, dans le secret du cœur, qu'avec les bergers, nous offrons nos pauvretés à celui qui est si riche de ses dons, le Tout-Puissant. Avec les mages, nous apportons les offrandes de nos bonnes actions au Dieu Saint qui vient faire sa demeure en nous. Voilà cette communion, cette union intime de Dieu avec nous lorsque nous le recevons dans notre âme. La bienheureuse Vierge Marie, au jour de son Annonciation, alors que le Verbe fait chair, s'établit en elle, il vient se présenter à nous comme le Sauveur du monde, le Sauveur du genre humain. Nous rendons grâce au Dieu trois fois saint, car il aurait pu nous sauver sans la bienheureuse Vierge Marie. Il aurait pu nous sauver sans elle, mais il lui a plu de passer par elle pour nous donner le Sauveur. Elle qui est la mère de notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair, de son humanité donc, devient par l'union de la nature divine, la mère de Dieu. Celle qui est comblée de la grâce, il lui plaît de dispenser les grâces que son Fils lui a données, car il plaît à son Fils de passer par sa mère pour nous exaucer. La Sainte Vierge est le plus court chemin et le plus sûr chemin pour aller à Jésus, son Fils. Alors nous lui demandons à Notre-Dame de nous aider à avancer vers le Seigneur Jésus. « Il fait bon accueil aux pécheurs » s'exclame-t-on dans l'Évangile indigné. Mais heureusement que le Seigneur nous fait bon accueil, car à part sa mère, il ne lui resterait pas grand monde. Alors que nous demandons l'humble pardon de nos péchés, nous entendons la Sainte Vierge nous dire à Lourdes, en la grotte bénie de Massabielle, « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs » pour que les pécheurs reviennent vers mon Fils de tout leur cœur. Alors à Lourdes, elle a établi en femme exigeante un plan précis. Ce plan précis qu'elle fait vivre à Bernadette, c'est le pèlerinage de Lourdes. Dans notre patois, pèlerinage, procession, c'est le même terme. Allez dire aux prêtres que l'on vienne ici en pèlerinage. et que l'on y bâtisse une chapelle. Pourquoi une chapelle? Car il s'agit d'honorer son Fils. C'est dans une chapelle que l'on entend l'Évangile qui nous est prêché et commenté. C'est dans une chapelle que nous recevons le sacrement de la confession comme l'ensemble des sacrements. C'est dans une chapelle que le Verbe qui s'est fait chair en elle descend sur l'autel pour se donner à nous. Il nous faut aller en pèlerinage et le but de ce pèlerinage, nous dit Notre-Dame le 25 février 1858, c'est d'aller à la source. Notre Seigneur Jésus le Christ est la source qui seule peut étancher nos soifs. Notre existence que nous recevons de Dieu n'est qu'un acte d'amour qui retourne à Dieu. Eh bien, Notre-Dame, elle nous prend fermement par la main, parce qu'au jour de l'Annonciation, certes, elle est devenue la mère de notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair. Mais au pied de la croix, comme celui-là lui était déjà signifié au jour de l'Annonciation, elle devient notre mère dans l'ordre de la grâce. C'est la raison pour laquelle elle visite à temps et à contre-temps notre terre, notre Bigorre en particulier, pour rappeler en mère de famille que nous, ses enfants, ne devons pas nous éloigner de son Fils, qu'il nous faut aller à la source qui n'est autre que son Fils, à la source de l'Évangile, à la source de Dieu qui vient étancher notre soif. Elle nous invite à prier avec elle pour la conversion de tous les pécheurs et pour cela à entrer dans une démarche de pénitence et de réparation. Enfin, pourra-t-elle révéler son nom le 25 mars 1858, jour de l'Annonciation. Dans l'Évangile, comme nous venons de l'entendre, l'archange ne l'appelle pas Marie, à Lourdes non plus, elle ne se présentera pas, comme aux apparitions de Garaison, comme la Sainte Vierge, la Vierge Marie. Elle répondra en notre patois « Que soyera Immaculada Conceptio » et moi je suis l'Immaculée Conception. Bernadette s'efforce, sur le retour de la grotte, de mémoriser cet étrange nom qu'elle ne comprend pas. La veille au presbytère, on lui a parlé dans une confusion de différents patois, de brouches, de sorcieros, de sorcières, de brouches, etc. Bernadette ne comprend pas qu'est-ce que c'est qu'une Immaculée Conception. Elle est dans l'action de grâce, parce qu'elle a vu Notre-Dame exulter en répondant enfin à sa demande, et elle ne peut que répéter sur le chemin du retour « Que soyera Immaculada ». Et le dernier mot est plus compliqué à dire, conceptio, qui finit par être un concetio, est tellement concentrée ce jour-là. Elle arrive au presbytère, car il s'agit d'aller porter l'heureuse nouvelle à monsieur le curé. Elle ne pense pas à frapper, elle ne pense pas à sonner la cloche. Elle est tellement concentrée à ne pas perdre le nom de la dame qu'elle entre au presbytère. Monsieur le curé se retourne, se demandant qui fait l'affront d'entrer ainsi dans sa maison. Elle voit son fameux sourcil commencer à se lever, signe d'une éminente colère, et Bernadette de terminer en se présentant comme l'Immaculée Conception. « Que soyera Immaculada Conception ?» lui dit-elle. Et voilà qu'elle comprend qu'elle a raté quelque chose. La dame a dit « Que soyera Immaculada Conception ?» Et pourtant, ce manque de protocole, de politesse élémentaire dû à la bonne concentration de Bernadette, la dame l'a permis, peut-être même la dame l'a voulu. Parce que la finalité de ce nom de la dame, ce n'est pas de dire qu'elle est l'Immaculée, l'Église avait reconnu qu'elle était Immaculée. Macula, c'est la tache du péché originel. Immaculée, elle est celle en qui ne se trouve pas la tache du péché originel. L'insistance à Lourdes, c'est le mot conception. Je suis la conception. Quelle conception? Elle n'est pas à sa propre origine. Ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que si le dogme de la conception immaculée de la Vierge Marie ne s'intéresse qu'aux premiers instants de sa conception dans le ventre de sa mère, la vocation que Dieu lui a donnée dépasse ces quelques instants. Au pied de la croix, Elle est devenue la mère dans l'ordre de la grâce et elle a une mission maternelle à notre endroit, nous concevoir chacun dans l'ordre de la grâce. Voilà la mission de celle qui est notre conception dans l'ordre de la grâce. Elle a conçu notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair. Elle vient ici pour nous concevoir et nous enfanter dans l'ordre de la grâce. Elle est comblée de la grâce. Elle est conçue sans péché, mais elle vient au secours des pécheurs. Eh bien, dans l'action de grâce, nous demandons à Notre-Dame de continuer son œuvre de conception, de sanctification en nous, pour que nous soyons, selon la vision de saint Paul dans son épître, saints et immaculés devant sa face. Nous devons tous être saints et immaculés devant la face de Dieu. Nous comprenons que nous ne valons pas grand-chose, que nous sommes des pécheurs, mais nous accueillons alors la grâce de Dieu qui vient accomplir en nos âmes des merveilles. En confiant à Notre-Dame toutes nos intentions de prière en ce jour, nous portons avec elle la conversion de tous les pécheurs que nous sommes, les pécheurs de la terre, mais nous emportons aussi par notre prière, il compte sur nous, toutes les âmes du purgatoire, cette communion des saints. Les saints prient avec nous ici-bas et nous, nous portons dans notre prière aussi tous ceux qui nous ont précédés. Nous demandons à Notre-Dame de jeter un regard d'amour, de compassion envers tous les malades, porteurs de handicap, convalescents. Nous demandons à la Reine du Ciel d'intercéder pour que tous nos fidèles défunts puissent obtenir le salut et nous rendons grâce. Parce que nous sommes chacun les enfants de la Vierge Marie, ses enfants de prédilection. Nous nous armons du chapelet qui est l'arme de prédilection de Notre-Dame parce qu'à travers cette prière, nous contemplons chacun des événements de la vie du Seigneur. Avec Notre-Dame, nous répondons nous aussi à l'appel de Dieu, à l'appel du ciel. Nous sommes les humbles serviteurs du Seigneur. Que tout soit accompli en nos âmes selon son dessein bienveillant pour chacun d'entre nous. Puisse Notre-Dame des Neiges nous bénir et nous soutenir, ainsi soit-il.